Salut Charline.
Alors on est content des bonnes audiences.
Ah, oui, ouais, super.
Très cool. Bien. Eh ben on en parle plus. On se remet au boulot. Allez, pop, pop. Merci, bisous, merci.
Ah, mais non, on fait une fête, on fait une fête.
Non, on prépare l'émission. Comme ça, au prochain sondage, on ne devra pas se plaindre des mauvais résultats.
Oh, bon, okay, bon, c'est qui l'invité?
C'est Kevin Razi.
Ah, super. Ouais. Ouais. On va lui demander quelques conseils parce
pourquoi
que lui, dans ses salles, il a un public jeune.
Ah, et vous, non?
Moi, par exemple, c'est plus le public de Michel Thor. Donc parfois, ils viennent avec leurs petits-enfants.
Ah, oui, quand ils les punissent.
Et toi, Guillaume?
Ah, ben moi, c'est le public France Inter, quoi.
C'est pas des prépubères non plus.
Non, bah déjà parce qu'il faut avoir de la barbe pour se faire un collier de barbe.
Ah oui, hein. Ce serait peut-être l'occasion pour vous de gagner du public.
Oui, 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 ça,
oui, oui, oui. Et aujourd'hui, plein de jeunes vont écouter.
Ah bah oui.
Il faut les convaincre qu'on ait une émission faite pour eux.
Charline, il faut que tu adaptes tes questions, mais en jeune.
Ah, ok, d'accord.
Tu lui parles de quoi, Kevin Razi?
Des fake news,
des
par exemple.
Des fake news. Ok, alors tu lui dis, poteau, tu trouves pas que, wesh, on est informé comme des bâtards?
Sa mère.
Ça a toujours ajouté sa mère.
C'est technique, quand même, le langage jeune.
Ouais, non, mais là, vous parlez surtout comme des ringards, les gars.
Ah bon?
Oui. Soyez vous-même, les jeunes adhéreront.
Ah ouais?
Et peut-être que des vieux à collier à barbe aimeront Kevin Razi.
C'est génial, c'est génial. Et on aura encore plus d'auditeurs, on pourra faire une grande fête.
Ah ouais, non, on fête rien au boulot, c'est tout.
Eh, hey, franchement, meuf, t'es rassera.
Ouais. Sa mère rassera.
Bonjour la France Inter qui est d'Arca, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui fait chuter le cours de l'actualité et voici les trois informations qui vont finir dans le rouge jusqu'à 18h. Quelles leçons tirer de cette campagne du premier tour? Si, il y a forcément des choses à en tirer pour l'avenir. On va s'y mettre à plusieurs et on va trouver, voici déjà une piste. Même piste qui se répète. Il faut sauver la démocratie, mais il faut aussi sauver la vérité, mise à mal par le complot, les fake news, les réseaux et les raéliens. Mais apparemment, ça, c'est pas nouveau.
On a une époque où tout le monde ment. Les prospectus des pharmaciens, les gouvernements, la radio, le cinéma, les journaux.
Les Mormons ont enfin un bâtiment, un temple pour abriter leur église en France, près de Versailles, un palais qui aurait coûté près de 80 millions d'euros. Bling bling les Mormons, dites donc.
C'est une petite bicoque sans prétention, d'accord, elle est très bien conçue, on a passé des soirées formidables.
Et moi je suis accompagnée de celui qui n'a qu'une religion, le pastafarisme.
Oui,
en témoigne cette passion devant laquelle il prie à genoux tous les matins, c'est Alex Vizorek.
C'est pas faux, bonjour Charline Vanhoenacker. Et aujourd'hui autour de la table, attention, belle équipe, 17h20, l'homme qui a l'air plus malin à la radio qu'à la télévision, jusqu'au moment où il entonne son jingle. C'est vous Thomas Bédébé?
Absolument, bonjour Alex, bonjour à tous. Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc exceptionnel qui s'est passé hier, puisqu'hier, il y a un astéroïde qui a frôlé la Terre à 2 millions de kilomètres. Il y a vraiment qui a frôlé la Terre.
On a senti le vent. 17h30, parfois je pense qu'il est extrêmement futé et parfois je me dis qu'il est complètement con. Aujourd'hui, il s'est jeté dans la gueule du loup, il est allé emmerder le CSA.
Oui, oui.
Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour
Alex.
C'est pas
malin.
Non, c'est pas malin, on va essayer quand même. Bonjour à tous. J'ai appelé le CSA pour en savoir plus sur les temps de parole des candidats. Le CSA considéré par certains comme la police de l'audiovisuel.
Mais on est un GO, un gentil organisateur.
Voilà, c'est la version Club Med plutôt.
Et 17h40, celle qui à elle seule me ferait devenir hétérosexuel alors que je ne suis même pas homosexuel. C'est Clara Dupont-Mono, bonjour.
Bonsoir Alex.
Ça ne veut rien dire, hein, je vous le confirme.
Non,
de quoi
confirme
on va parler
aussi. L'humiliation.
Non. Je suis content d'être venu.
Et voici celui qui va présider à cette énorme humiliation. Vous êtes issu du Jamel Comedy Club, mais vous êtes aussi passé par l'émission de Laurent Ruquier, On ne demande qu'à en rire. En 2014, vous êtes chroniqueur dans le Before du grand journal de Canal et vous remontez sur scène avec une version remaniée de votre spectacle intitulé Mise à jour. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes.
Je suis Kevin Razi.
Oh
sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Bonjour Kevin Razi.
Bonjour tout le monde, bonjour Charline, bonjour Alex, bonjour toute l'équipe.
Bienvenue chez nous. Alors, vous donnez une représentation exceptionnelle de votre spectacle, Mise à jour, à Bobino, le 26 avril. Et vous serez aussi le 21 et 22 avril à Lille, au Spotlight.
Très soignable.
Alex Vizorek, vous avez déjà croisé Kevin Razi à plusieurs occasions.
Je connais très bien Kevin Razi, mais je voudrais que vous vous présentiez peut-être aux auditeurs d'Inter, parce que je pense que peut-être ils vont vous découvrir aujourd'hui.
Oui, ben je suis humoriste, j'ai 29 ans et je suis
franco-mauricien.
Voilà, c'est ça, mes parents.
C'est de là ses beaux yeux.
Bah oui, de mon arrière-grand-mère, mais qui était française pour le coup, qui était une blonde aux yeux clairs. Et donc ça a sauté des générations parce que mes sœurs n'ont pas eu cette chance, ni mes parents. Et bien fait pour votre gueule.
Mais tiens, je tiens, Mauricien, l'affaire de l'île Trémolin, moi ça m'a passionné. Quand on connaît Apolline, ça ne s'attendait pas à ça.
Il vient de découvrir l'existence de l'île Trémolin.
C'est ça. Non, c'est pas grave. C'est une île que la France revendique cette île, mais l'île Maurice aussi, il y a une dispute entre les deux pour cette galette de terre.
Ça ne vous empêche pas de dormir. Enfin,
on en a strictement un. Tant qu'on a des samoussanes, on est très content.
Pour être sûr, donc le dossier de l'île Trémolin qui me passionnait tombe à l'eau.
En revanche, Kevin Razi traite énormément de sujets d'actualité et votre spécificité, je pense, c'est vous avez une espèce de mission où vous voulez aussi expliquer à votre public qui parfois est mal informé et donc vous voulez comment dire être un trait d'union entre humour mais aussi conscience.
Exactement, parce que parfois il y a des sujets qui sont un petit peu obscur pour certaines personnes et j'utilise du coup le vecteur de l'humour pour essayer d'intéresser les gens parce que c'est des sujets qui concernent tout le monde.
Mais quel sujet par exemple? La gauche
Non mais il y en a plein en fait. Par exemple dans l'émission qu'on fait, que je fais sur Canal qui s'appelle Rendez-vous avec Kevin Razi, on a fait un épisode il y a deux jours sur les autoroutes, un autre sur l'obsolescence programmée, enfin on essaye voilà, d'aborder tout un tas de faits de société.
Mais aussi les sujets compliqués pour cette génération-là que sont les attentats, l'affaire Théo, vous contournez aucun de ces sujets?
Ah bah non, je pense qu'il faut en parler hein, pour justement éviter de cristalliser trop de haine et essayer justement d'être une soupape et l'humour sert à ça je pense.
Et donc sur scène, qu'est-ce qu'on va voir? En partie ça, et en partie vous allez aussi parler de vous, de votre quotidien, de votre vie.
Exactement, Alex. je vais parler de ma vie parce qu'on ne me connaît pas et à travers le prisme de mon autobiographie. C'est pour Télérama que je dis ça. Je parle en fait de faits de société, d'actualité, de géopolitique, etc.
De l'île de Trémolin.
Notamment. Ça c'est le final.
Ça faudra l'ajouter, je pense. L'île de
Trémolin. Je suis en train de le noter.
Il faut faire un spectacle en entier là-dessus.
Vous dites justement Télérama parce que oui, je pense que vous êtes bien vu par ces gens-là, comme on pourrait dire, et vous êtes aussi bien vu par ce public jeune qui va sur les réseaux chercher l'info et l'humour. Comment on parvient à tenir ce grand écart?
Alors déjà, j'ai eu qu'un seul T sur Télérama, donc je suis pas si bien vu que ça.
Ah, mais c'est quand même pas mal.
J'ai pas à me plaindre. Non, mais comment on fait? Je pense qu'en fait, on sous-estime la capacité des jeunes à s'intéresser à des sujets comme ça, c'est tout. Donc moi, je tente et ça fonctionne.
Vous dites dans une interview que vos parents avaient peur parce qu'à l'île Maurice, leur lieu de naissance, les gens ne sont pas très à l'aise avec la critique du gouvernement.
Non.
Et est-ce que donc vous estimez quand même avoir un espace de liberté totale ici? Et en quoi, eux, ils vous ont dit « Non mais va pas si loin, c'est pas nécessaire, tu peux faire un autre métier. »
En fait, ils ont peur parce qu'à l'île Maurice, ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Et en France, on a quand même une autre culture, on adore tacler... en France, c'est quand même un sacré pays. On accueille des migrants belges qu'on paye pour critiquer le pays d'accueil. Donc c'est quand même génial. Et donc, du coup,
pardon,
c'est ça.
Monsieur. Le grand remplacement.
Voilà, c'est ça. Non mais du coup, voilà, non, ils ont eu peur, mais je leur ai dit « Vous inquiétez pas, on est en France. »
Donc maintenant, ils ont compris et ils admettent.
Ils sont très fiers, même.
Ah, bah, c'est très bien.
Kevin Razi, comme la société, c'est une de vos matières préférées, cette évolution de la société. Donc, mise à jour, c'est aussi parce que la société évolue parfois très très vite que de nouveaux sujets émergent. Qu'est-ce qui a été mis à jour, par exemple, récemment pour votre présentation exceptionnelle à Bobino?
L'hypersexualisation des jeunes. Et là, ça a l'air un peu obscur. On se dit, oh là là, il va être chiant dans son spectacle. Non, mais c'est. En fait, aujourd'hui, les jeunes ont accès à plein de réseaux sociaux et notamment à Snapchat, etc. Et moi, je discute un peu avec tout le monde et j'ai un pote qui est surveillant et qui me disait qu'un de ses élèves de 9 ans avait envoyé une photo de son zizi à une fille de 8 ans via Snapchat. Et quand on lui a demandé « Mais pourquoi t'as fait ça ?», il a répondu « Bah, je croyais qu'elle m'aimait bien. » Et donc, heureusement qu'on ne fait pas ça, parce que sinon, à la fin du spectacle, on aurait pas mal de snaps. Et du coup, voilà, en fait, c'est la façon dont le rapport des jeunes, par exemple, avec la sexualité, etc., qui a évolué. Il y a plein de choses dans notre façon de consommer, etc. Donc, c'est tous ces sujets que j'aborde.
C'est Kevin Razi qui est avec nous jusqu'à 18h. Mise à jour Stabobino le 26 avril et avant cela, le 21 et 22 à Lille, au Spotlight et puis sur Canal Plus Décalé à 20h35 le samedi. Allez, on s'amuse jusqu'à 18h. Hush, not child, and don't cry. Your folks might understand. Just move on up toward your destination. Curtis Mayfield oh, sur France Inter.
Quelle ambiance.
Mais oui.
Mais Zézubert. Excusez-moi, pardon. C'est mon passé le forain qui vient de remonter d'un coup.
Le plus petit loup, c'est la grosse peluche. Pardon.
Il y a une détente aujourd'hui.
J'aime bien.
Et si on veut faire de la pêche au canard, ça se passe comment?
Oui, attention. Et ben, les bras, les bras, les bras.
Bon ben, vous avez entendu Guillaume Meurice qu'on est en train de perdre. Donc profitez-en. Thomas VDB qui est consterné. Et Clara Dupont-Molo qui s'amuse. Elle ne sait pas ce que c'est la fête foraine. Et Charline Manon, la carte à vous.
Bien sûr, nous entourons Kevin Razi qui a fait le bonheur de nous accompagner et qui joue à Bobino le 26 avril dans son spectacle Mise à jour, qui a un œil acéré sur la société. Et exactement, c'est pour notre plus grand plaisir. Et là, l'information, vous savez, c'est une création permanente de la représentation du monde qui mérite parfois un petit peu de création, de création dans le journalisme.
Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train.
Vous mentez. Le journal de presque 17h17.
Ça vous reprend.
C'est un mensonge.
Et on commence par les titres.
La voiture de François Fillon a été braquée en marge de son meeting à Lille.
Eh oui, je pense qu'il va dire que les preuves du travail de Pénélope s'y trouvaient parce qu'on lui a subtilisé un ordinateur.
Vous êtes
punis. Oui, c'est bien.
Des méchancetés sur François Fillon, vous êtes punis.
Pamela, non, c'est la suite qui me fait rire. Ah. Pamela Anderson appelle à voter pour Jean-Luc Mélenchon.
Et oui, c'est le premier épisode d'une nouvelle série, Arlette à Malibu.
Il y aura des brèves.
Et même si Pamela Anderson soutient Mélenchon, ça ressemble déjà à une brève.
Et on commence ce journal par
François Fillon.
Bah ouais, et putain, décidément
je gagne tous les jours, tous les jours je gagne.
Balèze, François Fillon et Nicolas Sarkozy se sont rencontrés ce matin, c'était au domicile de l'ancien chef de l'État.
Et qui sait, la prochaine rencontre, ce sera peut-être dans la cour de promenade de la prison de la Santé.
Juste avant, il était interrogé ce matin sur RTL à propos de l'annulation de son interview au Monde et François Fillon a déclaré:
c'est pas les médias qui décident des questions.
C'est là, avec des réflexions comme ça, qu'on sent qu'il est proche de Poutine. C'est pas les médias qui décident des questions. Alors attention, ça commence comme ça et ça finit par... C'est pas la justice qui décide des délits.
Mais il engrange deux nouveaux soutiens. D'abord, l'héritier légitime de la couronne, Henri Comte de Paris, issu de la branche des Bourbons-Orléans.
Ah mais donc, eux, les affaires, ça les a pas refroidis, ça.
Bah apparemment, non.
En même temps, tu m'étonnes, pendant des siècles, ses ancêtres ont vécu avec des fonds publics.
Effectivement. Et soutenant aussi François Fillon, Alain Delon, qui a écrit une lettre ouverte en sa faveur.
Oui, et c'est fou parce que je suis persuadé que le seul mec en qui il avait des faveurs, c'était lui-même, mais chapeau à lui.
Et en revanche, Pamela Anderson appelle à voter Mélenchon.
Ah ben voilà, ça c'est un soutien de qualité.
Ah, ça me soutient. Oui. Donc avant Mélenchon, c'était le PS.
Dit, je vais pas la faire, mais je vous remercie.
Gros bonnet, oui, c'est ça que vous vouliez dire?
Non, j'ai rien dit.
Bon, avant Mélenchon, c'était le PS et la synthèse.
Et maintenant, c'est la France insoumise et les prothèses.
C'est quand même bien une ancienne sauveteuse.
Oui,
c'est ça, mais franchement, c'est pas cool pour Benoît Hamon, parce que c'est lui qui se noie en ce moment, elle aurait pu aller à sa rescousse.
Passons à Emmanuel Macron. Oui. 6 millions de numéros de téléphone de l'annuaire vont recevoir un appel de Manu pour un message enregistré d'une durée de 1 minute 30.
Alors, pour les personnes les plus âgées, éloignez-vous du combiné de téléphone, parce que s'il crie comme à ses meetings, ça peut être dangereux.
Jean Lassalle a estimé que son élection...
Oh, attendez, ça va être magnifique.
A estimé que son élection aura, je cite, le même retentissement que celle d'Obama en 2008.
C'est quoi son projet à Jean Lassalle? C'est vraiment nous piquer notre job d'humoriste et il est très très bien parti.
Média présent, Arnaud Lagardère annonce qu'il va prendre la présidence de la station Europe 1.
Oui, c'est connu, si tu ne viens pas à Lagardère, c'est Lagardère qui vient à Europe 1.
Justice à présent, à Marseille, un magistrat a oublié qu'il avait une audience à présider et il ne s'est pas présenté au tribunal.
Ah, voilà, il y a au moins un juge sur la même longueur d'onde que Marine Le Pen et chapeau à lui.
Et on termine par les brèves.
Oui, Besançon, vêtu d'un cache-sexe, il frappe la vendeuse de brioche.
Ah oui. Il y a un moment où je me demande si les gens font pas tout pour que vous fassiez des brèves.
Bah, écoutez, c'est une vraie possibilité.
Et alors, pour terminer, vous vouliez nous faire découvrir une discipline.
Une discipline que je pense vous ne connaissez pas. Ça m'a réjoui, ça se passe au Tréport, station balnéaire normande, frontalière des Hauts-de-France. Écoutez le son, écoutez bien, c'est pas évident, et essayez de trouver la discipline.
Allez, vas-y.
Ah bah ça c'est le lancer de hareng ça.
Pas le lancer de hareng, 3m65.
De tong.
Non.
Le sauter de falaise. C'est une falaise au Tréport.
Noyau d'olive.
On se rapproche.
Bulot.
C'est le crachat de bigorneau. Et les Français, vous êtes champion du monde. Et je pense que ça vous ferait plaisir. Et le zizou du crachat de bigorneau a quand même fait 11m04.
Waouh.
Chapeau à vous, les Français. Vous ne la connaissiez pas cette discipline?
Ah bah non.
Peut-être une bonne idée de chronique en perspective. Je vais prendre les coordonnées de ce jeune homme.
Effectivement. Kevin Razi, vous êtes avec nous. Oui. Une période un petit peu dingue de notre vie de citoyen va s'achever dimanche avec le premier tour. Cette campagne vous a épuisé, nous aussi. Mais quelles leçons en tirer? Il y a bien des choses à en tirer, si, si. Et ce sera sans doute l'objet de vos conversations ce week-end, comme celle-ci par exemple.
Tu vois, parfois la vie est plus complexe. Par exemple, des gens de droite peuvent faire des choses très bien et des gens de gauche, des saloperies.
Mais non. La gauche, c'est bien, la droite, c'est tous des fachos.
Il y a des gens courageux et intègres partout. Et il y a des fachos de gauche.
Non. La politique, c'est des idées. Et les idées de droite, ça a toujours été le fric, le nationalisme et la loi du plus fort. Et ceux qui votent à droite, ils revendiquent ces valeurs. Et j'ai pas envie de savoir si par ailleurs, ils sont gentils avec leurs chiens.
Alors toi, si t'arrivais au pouvoir, alors tu serais du genre à tuer la moitié des gens pour construire un monde meilleur.
Mais je les
tue pas,
je les baise.
Oh, on dirait Guillaume Meurice. Et oui, dans le rôle, c'est Sarah Forestier et Jacques Gamblin dans Le Nom des gens. Kevin Razi, cette campagne a été assez folle, inquiétante, enrichissante, on peut dire tous les qualificatifs qu'on veut. Mais vous, quelles leçons vous tirez de cette campagne du premier tour qui s'achève? Qu'est-ce que vous allez en retenir? Qu'est-ce que vous pensez peut-être qu'elle nous a apporté finalement?
C'était une période très dégueu et je pense que ce qu'on pourrait, selon les résultats du premier tour, on pourra peut-être se dire que plus on est mis en examen, mieux c'est pour pour se faire élire. C'est à peu près tout ce que je retiens. Et au final, oui, il y a plus vraiment de couleur politique. En fait, on s'intéresse plus du tout au contenu. C'est vraiment l'écran qui compte, et c'est parfois dommage, parce qu'en plus les médias jouent ce jeu-là. En fait, on va plus s'intéresser effectivement à toutes les histoires plutôt que au fond, mais c'est vrai qu'il y a des fois des histoires qu'on peut pas contourner.
Vous qui essayez par votre humour d'être pédagogue, comment motiver votre public à aller voter?
Bah déjà à pas voter contre, parce que je pense qu'ils en ont marre, les spots où on a 15 000 célébrités qui font une demi-phrase chacun, etc. C'est un peu éculé. Il faut voter, car c'est toi qui va... Non, c'est bon, les gars, on a eu notre 2005, on a vu que ça marchait pas comme ça, etc. L'idée, c'est d'aller voter pour une fois, en fait, et vraiment de les motiver à aller dans ce sens-là, et surtout de parler de sujets. Par exemple, moi, dans mon émission, j'attaque pas la politique, mais des sujets qui touchent à la politique. Quand on parle d'éducation, des hôpitaux, etc. Et en ayant ces billes, ils peuvent faire des choix selon les programmes de chacun.
Voilà.
plutôt expliquer le fond que de s'en tenir aux personnalités.
Voilà, c'est ça, plutôt, ouais. C'est le plus important.
Après, est-ce que, comme leçon, on ne peut pas retenir des choses comme on a zigouillé les têtes de gondole, finalement. C'est vrai que François Fillon est sorti de la primaire, c'était inattendu. Hamon aussi. On oublie presque que chez les Verts, on pensait que ça allait être Cécile Duflot, c'est Jadot qui est sorti.
Non, pas presque. Il y a une forme.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais donc, on sent qu'il y a quand même une volonté de changement et toute une génération de politiques qui doivent s'en aller. Est-ce que c'est quand même une part positive des choses? Le Français est un peu plus aventureux ou a signifié qu'il voulait autre chose? Est-ce qu'on ne peut pas retenir ça?
Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Vous faites bien de le souligner, chère Charline, car effectivement, pour une fois, on n'a pas ce choix un peu unilatéral où on est sur du gauche-droite classique, mais il y a un peu tout le champ des possibles qui s'offre à nous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et juste aussi parce qu'en fait, notre président n'a pas décidé
Il y a plein de choses inédites.
Voilà, c'est pour ça. Ouais.
Autour de cette table, est-ce que l'un ou l'autre retient des choses? Clara Dupont-Mono, qu'est-ce que vous retiendrez de cette campagne de premier tour, peut-être?
La désaffection des citoyens, et notamment des plus jeunes, envers la politique, où ça, c'est un vrai drame. Je sais pas si on va frôler un taux record d'abstention ou pas, on verra, mais enfin, c'est pas parti pour que la chose passionne les Français, et c'est un tort, parce que là, il y a un job qui a pas été fait. La politique étant une valeur tellement noble et tellement prisée par d'autres peuples qui n'ont pas cette possibilité de voter, que là il y a eu quelque chose qui est un non-sens, quoi.
Guillaume Meurice, que ça...
Moi j'y vois la fin de la 5ème République, quoi. Non, mais c'est-à-dire que la personnification du pouvoir ne marche plus. On ne peut pas tout attendre d'un homme providentiel ou d'une femme providentielle. Une personne ne peut pas avoir la réponse au problème de 66 millions, c'est ça?
Effectivement, Thomas BDB.
Bah, Guillaume, excuse-moi, mais t'as mal lu le programme de François Fillon. Ah ouais, excuse-moi, mais ouais. Mais... Non, moi, je retiens cette image de l'émission politique où François Fillon va à la rencontre des infirmières. Et vous vous rendez compte que vous voulez augmenter le temps de travail, on est déjà au maximum, et puis là, oh, écoutez, ça va. Et puis il tourne les talons, et pas. Ah ouais, c'est le meilleur. Là, c'est le meilleur, c'est mon chouchou.
Vous voulez que j'augmente la dette?
Oui, c'est ça, c'est ce qu'il a dit. Vous voulez que j'augmente la dette?
Bah non, moi, la non-bipolarité des choses, avant, c'était 2. Plus éventuellement Front National, et cette fois c'est 4 un peu ex aequo sur la ligne de départ.
Donc. Et voilà, comme quoi il y a des leçons à tirer. Thomas VDB, justement, oui. Vous avez le micro, go go go.
Hier, un aspect roïde a frôlé la terre, on a tous failli mourir, oui mais on n'est pas mort. Force est de reconnaître que ça fait plaisir. Hey! Hey! Voilà, après on peut la chanter pendant longtemps encore. Oui, parce qu'évidemment, hier, un astéroïde est passé à environ 2 millions de kilomètres de la Terre. Eh ouais, alors je sais que ça en étonne peut-être de m'entendre parler d'astronomie à haut niveau, mais il faut savoir que depuis cette semaine, je suis dans les petits papiers de l'astronaute Thomas Pesquet. Vous n'êtes pas sans savoir, c'est une petite parenthèse, que je fais des sketchs sur W9 avec mon ami Mathieu Madénian. Il n'y a pas longtemps, on a fait un sketch dans lequel je votais par procuration pour Thomas Pesquet. Et cette semaine, l'astronaute Thomas Pesquet, eh bien, a retweeté mon sketch depuis l'espace. Alors bon,
comme quoi, il n'y a vraiment que ça à foutre.
Alors, effectivement, peut-être, mais alors, faut savoir que moi, dans la vie, j'ai été retweeté par plein de gens, déjà, Alex, Charlie, ça fait plaisir. Mais je crois être le seul autour de cette table à pouvoir parler de l'effet que ça fait d'être retweeté depuis l'espace. J'en parlais avec John de la NASA ce matin au téléphone. Et on était d'accord, on dit vraiment, voilà, il y a quelqu'un dans le cosmos intersidéral qui a une petite pensée pour moi cette semaine. Donc l'astéroïde est passé environ 2 millions de kilomètres de nous. L'astéroïde s'appelait 2014 JO25. Alors à ne pas confondre avec 2015 AB25 qui est le digicode pour aller chez ma mémé. Il faudra qu'on m'explique pourquoi on est capable de donner des prénoms normaux aux ouragans comme Gérard ou Catherine. Mais à chaque fois qu'on nomme un astéroïde, moi j'ai l'impression de jouer à la bataille navale. Il faudra qu'on m'explique. Alors donc là il est passé à 2 millions de kilomètres. Et c'est fou parce que tous les ans on entend qu'il y a un astéroïde qui va passer à côté de la Terre. Et à chaque fois j'ai l'impression que c'est de plus en plus proche. Et je dois dire, je me demande souvent, moi, quelles seraient mes dernières paroles si un astéroïde venait frapper la Terre. Et je vous dis, en fait, j'y réfléchis, je pense que ce serait « Putain, il approche, le blanc, voilà, et ce seraient mes dernières paroles, je pense. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'à chaque fois qu'un astéroïde frôle la Terre, eh ben, faut bien dire qu'on frôle tous la mort. Mais là, bon, là, je pense que ça devait être un astéroïde assez bon esprit. Je pense qu'il est arrivé près de la Terre pour se crasher. Il a vu le bordel ambiant qu'il y avait sur Terre. Il s'est dit, je vais pas aller m'exploser là. Il y en a qui vont faire tout le boulot dans pas longtemps. Je vais leur laisser un peu de sursis. Et il a détourné le regard. D'ailleurs, l'astéroïde est censé repasser près de la Terre d'ici 500 ans. À mon avis, quand il va repasser, il va se dire, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas une planète ici avant. Enfin, je pense à ce qu'il va se dire. Mais imaginez tout simplement la tournure qu'auraient prise tout simplement les élections présidentielles s'il y a 10 jours, on nous avait dit que l'astéroïde allait frapper la Terre. Je veux faire un peu de mise en perspective, parce que c'est vrai qu'on est tous là en ce moment à se demander quel âge on doit mettre l'âge de la retraite. 65 ans, 70 ans, ouais, bon, on a failli tous partir à l'âge de la retraite, en même temps, d'un seul coup, on a failli partir à la retraite. Ouais. Voilà, mais on ne peut pas, c'est vrai, ne pas faire le lien entre les élections et cet astéroïde qui est passé à 2 millions de kilomètres de la Terre. Je rappelle que 2 millions de kilomètres, c'est exactement la distance qui sépare Nicolas Dupont-Aignan de l'Élysée. Mais imaginez si on nous avait annoncé que l'astéroïde avait dû venir s'éclater sur Terre. Je ne sais pas si vous aurez imaginé la réaction des politiques. Alors, bon, évidemment, pour Benoît Hamon, ça n'aurait pas changé grand-chose. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'un astéroïde, c'est un amas de matière homogène qui s'effrite en rentrant dans l'atmosphère avant de s'écraser. Et si vous regardez bien, c'est exactement la même destinée que le Parti Socialiste. Mais est-ce que vous imaginez François Fillon, avec tout ce qu'il a esquivé pendant la campagne, ça aurait quand même été assez ballot de se prendre un astéroïde quand même 4 jours avant l'arrivée. Je pense qu'on l'aura entendu, François Fillon, cet astéroïde a été mis en place à l'initiative du cabinet noir de l'Élysée. Ah, c'est sûr. Mais c'est sûr que si l'astéroïde avait dû venir se cracher sur nous, mais nous, notre comportement aurait changé à l'égard de François Fillon. François, c'est bon, garde l'argent. Je sais pas si vous imaginez ce qu'aurait dit Jean Lassalle par rapport à cet astéroïde. Sous les concitoyens. Et je pense que j'aurais été assez d'accord avec lui. En tout cas, le seul qui aurait survécu, évidemment, et ben ce serait évidemment Mélenchon. Je le rappelle, qui est tellement dans le futur qu'il a envoyé des embryons congelés de ses clones dans une station spatiale secrète. On l'en félicite, mais bonne nouvelle, c'est que l'astéroïde ne s'est pas craché. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est détendez-vous et profitez des 3 semaines qui nous restent à vivre normalement. Merci.
Oui, merci Thomas VDB. On peut vous revoir sur franceinter.fr, faire des petits moulinets avec les bras.
Absolument.
On vous y encourage.
C'est beaucoup plus drôle avec les moulinets.
Kevin Razzie est avec nous jusqu'à 18h. L'humoriste qui regarde la société de son œil acéré et qui sera en spectacle à Bobino le 26 avril dans Mise à jour de la musique tout de suite. Vous êtes sur France Inter.
Quelle transition.
Ne me change pas. Laisse-moi chanter. Laisse-moi chanter. On ne transforme pas. L'acier en étain. J'en ai poursuivi des chimères, courbé plus de 100 fois les chines, bâti dans un bois qui ne plie. L'écorce du chêne tient. Puis soudain, crac, crac. Ne me change pas. Laisse-moi chanter. Ne troque pas.
Miss Sparrow chante « Ne me change pas ». Ne me change pas, il faut oublier, il faut s'oublier. Mais vous êtes sur France Inter, en compagnie de Kevin Razi. Vous êtes franco-mauricien, donc je rappelle, c'est Tromelin, l'île.
Oui, vous avez fait une
voilà, c'est pour ça que je ne savais pas.
Et Kevin Razi me disait, à côté de l'île Maurice, il y a aussi une autre...
Diego Garcia.
L'île Diego Garcia.
Où il y a une base militaire dessus américaine, voilà. Et puis, c'est un petit peu l'embrouille, parce qu'ils payent un loyer pour cette base aux Britanniques, qui avaient à l'époque l'île Maurice. Mais maintenant qu'ils ne l'ont plus, bah, l'île Maurice dit, bah, non, le loyer, c'est pour le bail, c'est nous. Puis, il y a une histoire de colocation.
Et l'encadrement des loyers autour de l'île Maurice, on n'en parle pas assez. Mais assez, on en parle dans Annule Tout. Avec à mes côtés, Guillaume Meurice, qui a appelé une institution que nous adorons, que nous embrassons à l'avance. Déjà.
Alors attendez, parce que c'est le bordel. C'est le bordel. Alors, dans la campagne, ça on le sait, puisque ça ressemble à un film coécrit par David Lynch et Patrick Sébastien. Mais c'est le bordel pour nous aussi au niveau des temps de parole des candidats. Ouais, alors la règle est pourtant simple, hein, égalité stricte durant les 15 derniers jours avant l'élection. Moi, je suis d'accord avec le principe, hein, c'est la démocratie, mais c'est l'application du principe qui pose problème, parce que ça pose un certain nombre de questions. Par exemple, est-ce que les ivres virgules d'Alex sont décomptés dans le temps de parole de Jean Lassalle? Voilà, exemple de question. Alors, pour y voir plus clair dans tout ça, j'ai appelé ce matin Sylvie Pierre-Brossolette, hein, qui est donc membre du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, et j'ai commencé avec un cas pratique.
Par exemple, si moi je dis je soutiens Jacques Cheminade.
Mais c'est du temps de soutien pour Jacques Cheminade.
Donc à partir de maintenant, mon temps de parole est décompté de celui de Jacques Cheminade.
Absolument.
Ouais, enfin, je sais pas si je suis un bon soutien pour Jacques Cheminade.
Oh, vous vous sous-estimez.
Bon, du coup, j'ai changé d'avis. Je soutiens plus Jacques Cheminade.
Eh bien, on ne vous comptera plus.
Ah, on me compte plus, d'accord. Mais le temps entre les deux a compté pour Jacques Cheminade.
Le temps que vous avez mis à prononcer les paroles « Je soutiens Jacques Cheminade » sera compté.
Ah oui, désolé Jacques, hein, puisque je lui ai bouffé 2 secondes et demie de temps de parole finalement.
Je le note. Hein.
2 secondes et demie pour Jacques Cheminade. Je suis désolé Jacques, je sais que tu n'avais pas besoin de ça en ce moment. Mais bon, il est soutenu par les Martiens, il va se remettre. Alors, bon, attention cependant, je dis Martiens, mais il faut qu'on pige les Martiens. Si on ne comprend pas, c'est compliqué. Je parlais de Jean Lassalle tout à l'heure. Bon, d'ailleurs, voilà, c'était ma deuxième question.
Si on comprend pas ce que dit le candidat, est-ce que c'est décompté de son temps de parole quand même?
Certains le comprennent, j'en suis sûr.
Certains comprennent Jean Lassalle?
Oh, sûrement, il a beaucoup d'amis, ils le comprennent très bien.
Quoi qu'ils disent, c'est décompté de son temps de parole?
Quoi qu'ils disent, c'est mis sur son compte de temps de parole.
Voilà, alors je vous rappelle que dans ma chronique de la semaine dernière, il avait imité le veau qui tête.
Exact.
Pendant 10 secondes, donc le CSA a noté veau qui tête, Jean Lassalle, 10 secondes. On salue les gens du CSA quand même qui rentrent chez eux le soir. Qu'est-ce que t'as fait de ta journée, maman? Eh ben, j'ai décompté le temps de parole de Jean Lassalle qui imite un veau qui tète. Super maman, regarde, je t'ai fait un collier de nouilles. Merci ma chérie, mais il faudrait un collier de Prozac. Continuons avec Jean Lassalle. Tiens, c'est un bon exemple Jean Lassalle parce qu'on sait qu'il est très soutenu dans ses montagnes, alors j'avais une question assez précise.
C'est le groupe Les Bouquetins avec Jean Lassalle et qu'on les entend, est-ce que c'est décompté du temps de parole de Jean Lassalle?
Jusqu'ici, il n'y a que des êtres humains qui ont don de parole, donc le temps de parole, ça vient généralement d'êtres humains. Vous pouvez aussi avoir un groupe d'amis qui s'appelle le groupe des Bouquetins. À ce moment-là, si vos amis qui s'appellent le groupe des Bouquetins s'expriment pour vous, c'est encore du temps de parole humain.
Mais si c'est des humains qui s'appellent les Bouquetins et qui imitent des Bouquetins?
Ah, mais ça, si c'est vraiment très bien imité des Bouquetins, ça n'est plus un temps de parole.
Ah, mais si en langage Bouquetin, ils disent qu'ils soutiennent
Jean Lassalle.
Ok. Non, mais je préfère bien préciser pour ne pas faire de conneries.
Ils sont
pointus,
en tout cas.
Je dis, ils sont pointus. Je le dis, ou quand même, il y a des Bouquetins qui nous écoutent. Hein, on a eu les audiences aujourd'hui et Médiamétrie ne précise pas ça du tout. Nous, on se doute qu'il y a quelques hyènes qui nous écoutent hein, parce qu'elles sont fans de Clara Dupont-Mono. Parce que c'est un petit peu le même niveau d'empathie. Mais des Bouquetins, voilà, ça on ne sait pas. Alors, concentrez-vous, s'il vous plaît. C'est important. Il y a d'autres choses qu'on ne sait pas, notamment sur la manière de décompter les interviews. Alors, j'ai demandé à Sylvie.
Est-ce que les temps de questions comptent dans les temps de parole des candidats?
Alors, c'est très simple.
Alors, attention, parce que quand le CSA dit c'est très simple, je préfère mettre en garde tout le monde là-dessus. Vous avez quand même intérêt à vous sortir les doigts du cortex, parce que sinon, ça va mal se mettre. C'est comme quand Macron dit, je vais être très clair, hein, si t'as pas un CAP en culage de mouche, tu pars pas gagnant. Alors, on s'accroche et on y va.
On ne compte pas la première question dans une interview. Après, on compte le temps des questions, sauf si elles excèdent 30 secondes.
D'accord, si on fait des questions de 29 secondes, donc...
On est bon.
C'est décompté du temps de parole du candidat?
Non, c'est compris. Oui, pas décompté, c'est compté.
Oui, alors attendez, je vous avais prévenu, non, c'est pas simple. Donc je résume, si les questions font plus de 30 secondes, on arrête le chrono, en gros, d'accord, c'est pigé. S'il y a la réponse dans la question, c'est pareil, compliquez pas tout, Charline, s'il vous plaît, que tout le monde reste bien concentré, on continue.
Donc si on l'interroge 2 minutes, qu'on pose 3 questions de 29 secondes, il aura 33 secondes pour s'exprimer.
Oui.
Ouais.
Mais là, C'est la règle.
Et ben voilà la solution. Invitons Marine Le Pen par tranche de 2 minutes et posons-lui des questions de 29 secondes. Ça lui laissera à peine le temps de couiner sa xénophobie entre deux grognements anti-avortement. Voilà une bonne chose de faite. On est un peu plus éclairé. Alors j'avais une dernière question, bon ça c'est un petit peu plus perso. Est-ce qu'à la radio on a le droit de boire à l'antenne ?
Tant qu'on ne vous voit pas sur une image diffusée sur des écrans régulés par le CSA, ça ne nous regarde pas.
Nous c'est sur Internet, donc...
Internet, vous faites ce que vous voulez.
Eh ben merci le CSA. Madame, allez, merci Sylvie. À la bonne vôtre, à la santé du CSA et de cette fin de campagne pas du tout éprouvante et aux résultats incertains. Comme dirait la grand-mère de Charline, si le malheur nous accable, avalons la douleur.
Oui, merci Guillaume Meurice, merci le CSA. On boit donc à votre santé. Et je vous annonce que demain, nous allons faire une émission spéciale.
Récupération
du temps de parole.
Compliqué.
Qu'essentiellement Guillaume nous a éclaté avec du Jean Lassalle et du Vauquitaine. Demain, ça sera une émission tout à fait foutoir, donc à l'image de cette campagne de premier tour, donc ne la ratez pas.
Demain, à 18h, nous serons en exactitude de temps de
parole. Un équilibre, mais incroyable, ouais. Ça va être... Oulala.
Alors, voilà, ça va être à peu près ça.
Ouais. Kevin Razibou, vous l'échappez belle, Kevin Razibou, vous êtes invité aujourd'hui, ça tombe bien. Là, on peut encore traiter des sujets. Et soudain, la France aussi s'est mise à ressembler à notre salon de coiffure où sont colportées les rumeurs. Les fake news sont censées être ces vérités sur les candidats à la présidentielle qui seraient sciemment cachées par les médias traditionnels, accusés de promouvoir le candidat du système. Oh, si ça continue, les fake news vont aller se nicher jusque dans nos cours de SVT.
Le mec qui me raconte l'histoire, elle est folle. Il dit les vrais boucles d'oreilles les plus ouf au monde, elles sont dans ce qu'on appelle la pakenka, une araignée. Genre une araignée, j'avais jamais vu ça, une araignée, elle te regarde, t'as l'impression que c'est Patrick Bruel qui te regarde. L'araignée, elle a 700 pattes. Genre c'est exactement comme à 1000 pattes, sauf qu'il en manque 300, tu vois. Tu peux la trouver que dans des coins où il y a becqueté, genre de la deviant. Genre l'araignée, en fait, pour manger, elle m'a pas mangé des herbes folles, elle peut manger une vache. Mmh. Elle s'y met à 7, et la vache, ils ont calculé, en 30 secondes 7, la vache, il lui reste une mamelle. À l'intérieur de l'araignée, il y a les herbes. Mmh. Et l'araignée à crêpes, en plus de mettre des grosses patates, elle fume des gitanes.
Serge Le Mito par Jonathan Cohen. Voilà, les fake news sont arrivées jusqu'à chez nous. Alors, je sais que c'est un de vos sujets de prédilection, le complot, toutes ces choses-là. Kevin Razi, vous les
puisque
observez.
Est-ce que vous êtes complotiste vous-même, hein, Kevin?
Exactement, Illuminati plus précisément.
Est-ce que vous-même, vous en avez vu passer des fake news pendant cette campagne où elles sont passées au-dessus de, ou en dessous de votre radar?
Alors là, pas réellement, mais moi, c'est un combat que je mène depuis longtemps parce que, en fait, ce qui m'embête un peu, bon, le Gorafi, on arrive à identifier que voilà, c'est des conneries, mais par exemple, et là je suis désolé mes chers amis belges, mais je jette la pierre notamment à Nordpresse, qui font des fake news, mais sur des choses qui auraient pu être vraies, comme par exemple, en titre, François Hollande a épousé Julie Gayet. Bah, c'est pas drôle et ça aurait pu être vrai. Et c'est ça, moi, que je veux combattre parce que je trouve pas ça intéressant.
Alors moi, je connais celui qui gère ce site-là et justement, c'est pour créer le doute et pour que les gens s'intéressent vraiment à la source des médias qu'il a créé ce site Nordpresse.
C'est contre-productif, malheureusement.
Alors,
je pense,
parce que sur Internet, on se dit, ah bah t'es bon, j'ai lu, je vais pas l'assimiler encore plus.
Exactement. Et la tristesse aujourd'hui, c'est que dans les sites politiques les plus consultés, c'est celui d'égalité et réconciliation qui arrive en premier. Et ça, c'est grave. Ouais. Parce qu'en fait, justement, on est trop abonné à ça. Et le problème aussi, c'est avec Facebook, c'est qu'il y a un algorithme qui fait qu'il fait remonter les articles qui vont dans le sens de ce qu'on poste. Donc on n'a plus du tout de contradiction.
Et alors, il y a plusieurs fake news qui ont été relevées et étudiées par un chercheur de l'Université catholique de Louvain en Belgique, justement. Celle qui revient le plus souvent, c'est « Macron va installer la charia à Mayotte ». Ça m'avait légèrement échappé. Alors, il y a eu Jean-Luc Mélenchon...
Il n'a pas de projet, le pauvre, c'est en plus en lui en colère.
Il y a eu Jean-Luc Mélenchon s'affiche avec une Rolex. Il y a eu Emmanuel Macron est financé par l'Arabie Saoudite. Il y en a eu plusieurs comme ça. Ali Juppé, Macron homosexuel, Macron Cahuzac, Emmanuel Hollande. Et ce chercheur de l'université a fait plusieurs constats. Le premier, c'est que 6 des principales fake news visent à nuire Emmanuel Macron, désigné comme candidat du système au général. Second élément qui saute aux yeux, dit-il, aucune de ces intox ne cible Marine Le Pen. Fait notable, si François Fillon est nommé dans cette liste, c'est pour lui venir en aide, car c'est la fake news François Fillon blanchie par la justice et les médias n'en parlent pas. Et donc le chercheur en conclut que, en voyant la circulation, c'est la fachosphère, les milieux catholiques proches de Fillon et de Sarkozy. Et à gauche, il n'y a pas de fake news à déplorer pour l'instant.
Ici, c'est politique, mais vous avez beaucoup traité les fake news en lien avec les attentats, où c'est plus ambigu et plus ennuyeux pour les jeunes.
Exactement, et en fait, on tombe vite dans le fanatisme, on a envie de rien croire. Et moi, ce que je disais, en fait, j'avais fait une campagne là-dessus, mais le but, c'est pas de croire tout ce qu'il y a à la télé, c'est juste, en fait, de faire attention quand on veut chercher ses infos et de pas se baser sur nouvelordremondial.org pour sortir des infos. Voilà, c'est ça le but. Quoi.
En sachant qu'il y a un élément aussi un peu nouveau, rappelez-vous, au moment de l'attentat de 2001 aux États-Unis, les caméras et les appareils photo avaient pris les images de différents points de vue. Mm-hmm. Et on se dit, plus il y a de points de vue, plus ça va accréditer, justement, la réalité. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que la multiplicité des points de vue crée justement la confusion. Parce que chacun se dit, voit soit la petite chose qui l'arrange, soit se dit, ah bah du coup, comme on l'a pris de ce point de vue-là, de ce point de vue-là, c'est donc qu'il y a quelque chose derrière. Exactement. Et en fait, même la multiplicité des points de vue ne sert pas à asseoir la vérité.
Exactement, ça.
Clara Dupont-Monod, vous avez le micro, je vous engage à le garder.
Je vais le garder, Charline, oui, parce que l'actualité, c'est cette dernière ligne droite avant le premier tour de la présidentielle, dimanche. Alors, ce ne sera pas seulement la victoire de deux candidats, ce sera surtout la défaite de 9 autres. Et la défaite sera donc publique. Or, justement, la littérature, qui est capable, comme toujours, de flairer les soubresauts de notre époque, nous offre un texte mais formidable sur l'humiliation. Est-ce que vous aimez l'histoire, Kevin ?
J'adore l'histoire et l'humiliation.
Ceci est un appel au SM. Alors, ça s'appelle L'humiliation, le Moyen-Âge et nous, et c'est signé d'un monsieur pour qui mon cœur bat, votre idole.
C'est qui mon s'appelle gros Pierre Gattaz.
Non, qui s'appelle Michel Zinc, et qui est historien, et qui est parti d'un constat très simple. Il est parti du fait que ça fait... Pendant quelques années, le mot « respect » a été mis à toutes les sauces. On l'a invoqué à tout bout de champ. Et puis, depuis 4 ou 5 ans, c'est exactement l'inverse qui arrive dans nos langages à nous, médiatiques, courants, familiers. C'est le mot « humiliation ». Je cite Michel Zinc. « Parcourez les titres de presse, vous y lirez que telle personnalité politique, tel acteur ou chanteur a été humilié, taclé, à moins que ce soit lui ou elle qui a humilié ou taclé. » Et donc, il décide de remonter le fil de cette notion d'humiliation à travers les âges et... Et j'adore parce qu'il écrit, je cite, « Ne lésinons pas. » Je vais remonter jusqu'au Moyen-Âge. « Ne lésinons pas. » C'est Noël. « Ne lésinons pas. » Bon, en tout cas, il y a...
Elle a l'air de se faire très plaisir avec le verbe « lésiner ».
Mais non, c'est le genre de livre où vous ressortez moins bête. Et ceci est tellement utile pour certains d'entre nous, Guillaume Maurice, n'est-ce pas ? Mais écoutez, il y a quelque chose de passionnant. Il se trouve que tout le Moyen-Âge, il le raconte, est parcouru en fait d'une tension qui se joue entre un idéal d'humilité, qui est promu par le christianisme. Je vous rappelle quand même que la scène un peu fondatrice du christianisme, c'est une scène d'humiliation, puisque c'est la mise en croix de Jésus-Christ. Donc d'un côté, il y a un idéal d'humilité, et de l'autre côté, il y a la société chevaleresque qui s'appuie sur exactement l'inverse, à savoir l'honneur et la puissance. Et tout le Moyen-Âge va être déchiré par cette contradiction. Et il se trouve que 2017 connaît exactement la même contradiction. Dans le raisonnement que je viens de vous faire, mettez le mot « citoyen » à la place du mot « croyant » et mettez celui de « politique » à la place de « chevalier ». Les aspirations sont exactement les mêmes. D'un côté, vous avez des Français qui aspirent à consommer moins, qui aspirent à une sorte de dénuement, à une sorte d'humilité. Et je vous rappelle que humilité et humiliation ont la même racine. C'est le mot « humus » qui signifie la terre. D'ailleurs, on dit « plus bas que terre » ou alors on s'abaisse jusqu'au sol. Et de l'autre, vous avez la politique qui, comme l'espace chevaleresque du Moyen-Âge, est un espace de démonstration de force, un espace d'honneur. On le voit quand il y a des affaires. Écoutez bien ce qu'ils disent les hommes politiques. Souvent, c'est « ah, on a touché à mon honneur, ah, je jure sur mon honneur ». Tout ça étant très médiéval. Si bien que quand Michel Zinc écrit, pour résumer le Moyen-Âge, je cite « une religion qui invite à la dépossession de soi et une société féodale qui invite à l'affirmation de soi, eh bien, on peut dire nous, des citoyens qui aspirent à la dépossession de soi, c'est exactement ça, et une politique qui invite à l'affirmation de soi. Et vous avez un instantané de 2017 qui est parcouru par la même tension qu'on a retrouvée au Moyen-Âge, qui explique bien des choses, notamment la désaffection de la politique et des citoyens, et certainement le taux d'abstention record qui aura lieu dimanche. Et vous voyez, ce qui pousse à mieux comprendre 2017, c'est donc le Moyen-Âge. Et puis, dernière petite chose, et eh ben oui,
c'est
un petit peu triste. Mais non, parce qu'ils ont tout inventé, parce qu'au contraire, c'est bien plus lumineux que ce qu'on imagine est bien plus intelligent. Et de la même façon, perdure l'officialisation de la défaite. Michel Zinc dit « L'humiliation n'a d'autre réalité que celle du signe. » C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit visible. Il faut que tout le monde la voit, que ce soit acté. Et rappelez-vous, non, mais c'est au Moyen-Âge, c'est le fou qu'on couvre de quolibets dans les rues. Ça a été le capitaine Dreyfus qui a été destitué publiquement. Ça a été les parades de la honte en Chine sous Mao. Et c'est, pour revenir à la politique contemporaine, le discours d'après la défaite. On voit tout ça sur nos écrans de télé à chaque fois, où l'humilié, toujours à visage découvert, accepte la défaite et accepte la mise à terre. Là encore, c'est un rituel médiéval et on ne dira jamais combien il nous a apporté. Je vous donne les références. L'humiliation, le Moyen-Âge et nous, de Michel Zinc, est paru chez Albin Michel.
Merci Clara Dupont-Monod. Clara, qu'on va retrouver samedi soir à 19h20 pour la Muse-Bouche.
Avec Laurent Chalumeau.
Comme invité.
Que vous avez reçu ici d'ailleurs.
Effectivement, oui, avec un super livre qui s'appelle VIP. VIP.
Et il nous disait, j'espère qu'elle ne m'invitera pas.
Et ça a loupé.
c'est il disait, ne les inons pas aussi.
Mais là, j'accours.
Bizarre que vous savez ce qu'il vous reste à susurrer à l'oreille de Clara Dupont-Monod.
Lésinerait pas en susurrant.
Kevin Razzie est avec nous, on va encore en profiter.
On dirait une pratique sexuelle déviante.
C'est-à-dire dans La Croix aujourd'hui, les Mormons ont désormais leur lieu de culte en France. 20 ans qu'ils attendaient ça. Un temple de 9000 mètres carrés, agrémenté de marbre, de lustres et de fontaines dans les jardins. Le tout estimé à 80 millions d'euros. C'est un temple, hein, pas un palais. Si les Mormons prospèrent, oh tenez, c'est peut-être que les employés de l'Église catholique ne font pas bien le job, non ?
Priez pour moi qui ai perdu ma mère, priez pour que mes élèves s'en sortent pendant mon absence, priez pour que mon mari retrouve du travail, parce que si ça continue le chômage, il va mourir de quelque chose. Ça ?
Je sais pas.
On barre le chômage ?
Oui, pas de politique, on laisse prier pour mon mari.
Priez pour mon mari quoi ?
Qui est malade ?
Il est pas malade, il est au chômage.
Oui, mais c'est pareil.
Bah, pas encore.
Ça viendra.
On laisse juste le début. Priez pour moi qui ai perdu ma mère ?
Non, priez pour l'âme de ma mère. Priez pour moi, c'est trop égoïste.
Bon, priez pour l'âme de ma mère. J'ai qu'un majuscule pour le père du mât parce qu'il est vraiment, vraiment mignon.
Hélène Vincent et Michel Simonnet dans Saint-Jacques-la-Mecque de Colline Serrault. Voilà les Mormons, religion née aux États-Unis au 19e, pour rétablir la vraie Église dans sa pureté primitive. 20 ans que les Mormons de France attendaient d'avoir leur lieu de culte, ça se passe à Chesnay, près de Versailles. Comment vous accueillez-vous cette nouvelle, Kevin Razzie ?
Mais écoutez, étant,
temple mormon.
Étant fan de Book of Mormon, la comédie musicale qui cartonne à Broadway depuis quelques années, je m'en fous. Parce que la comédie musicale est bien plus drôle. Qui a payé du coup ?
C'est l'église de Salt Lake City, a priori.
Ouais, c'est financé par les États-Unis, la communauté mormone.
Chez les mormons, les croyants, entre guillemets, doivent reverser une somme assez astronomique à l'église de façon régulière. Je crois que c'est 10% de leurs revenus. Et donc, ça explique aussi que des gens se saignent alors qu'ils ne gagnent pas beaucoup pour reverser à l'église mormone.
Ce qui est très 23 femmes, moi, je veux bien
mettre un peu... Non, mais ce qui est très bizarre, c'est que ça n'a pas été répertorié c'est comme possible. Une secte.
Oui, effectivement.
Et beaucoup de voix se sont élevées en disant, mais attendez, excusez-moi, mais au niveau de l'organisation, des fondements, c'est très sectaire comme fonctionnement. Et pourtant, ce n'est pas répertorié comme secte, c'est bizarre.
Mais c'est le facteur pécunier qui référence tout de suite un mouvement
pas
comme...
Pas seulement, non, c'est un ensemble de choses, mais vous avez l'embrigadement des enfants, l'éducation qu'on donne aux enfants, vous avez toutes les obligations qu'on doit à l'Église, et a priori, il y en avait assez pour qu'on s'étonne de ce que ce soit pas du tout classé comme secte.
En tout cas, c'est une église assez prosélyte. Hein. Vous vous rappelez, ils fonctionnent à deux.
Oui, on les aime bien, on les voit se trimballer. Oui. Moi, j'aime bien.
Avec leur sac en bandoulière.
Et ils demandent toujours, est-ce que vous croyez en Dieu ? Ah, moi, ça me fait rigoler.
C'est eux qui offrent les Bibles. Non, c'est pas. Il n'y a pas que eux qui offrent les Bibles. Il y a plein de mecs, souvent, ils offrent des Bibles.
Ça,
dans la
c'est témoin de Jéhovah.
Non, mais ils font un peu ce que... C'est sympa, je trouve, de leur part.
Parce que c'est pas donné.
Ils sont chouettes, c'est un témoin de Jéhovah.
C'est toujours le même bouquin, c'est dommage. On pourrait faire avec d'autres bouquins.
Mais ils font un peu ce que fait Guillaume Meurice. C'est-à-dire errer en parlant aux gens pour les convertir.
C'est vrai.
Ça, libre.
C'est très prosélyte. En tout cas, sachez que vous pouvez visiter le temple mormon. Il paraît que la moquette est épaisse, que les lustres sont magnifiques, que Guillaume Meurice va peut-être aller faire
un visiter. C'est vrai, on peut le visiter.
Oui, jusqu'au 22 avril, effectivement.
Et est-ce que ça peut se réserver pour faire un mariage ?
Pour les mormons, oui, c'est déjà surbooké.
Bon,
et Mitt Romney, le républicain.
Deux, trois mariages sur la journée, si.
l'a déjà visité. Kevin Ramsey, oui. Nous avons une tradition à la fin de cette émission.
Ah, pardon.
Ramsey, c'est un autre.
Tradition du sketch.
sketch de fin d'émission, vous avez un petit rôle avec nous.
D'accord.
Parce que bon, pour Europe 1, c'est difficile. Hein. La vague d'audience a été pas terrible. Et Arnaud Lagardère a décidé de reprendre la présidence d'Europe 1 lui-même. Et évidemment, on pense que la première chose qu'il va faire, c'est de placer Jade Forêt, sa femme, à la tête de la matinale. À quoi ça pourrait donc ressembler dès demain? On se rend tout de suite sur Europe 1.
Bonjour à tous. Ah oui, il y a un jingle. J'avais oublié, c'est la radio. Bonjour à tous. Bonjour à tous.
C'est bien, ma louloute, c'est bien. Vas-y, vas-y.
On est le matin.
Super, ma louloute, vas-y. Allez, on y va.
Non, mais t'inquiète pas, mon nono, parce que c'est moi qui vais redresser ton antenne.
Oui, mais là, il ne s'agit pas de notre vie privée, louloute.
Ah, mais on s'en fiche, plus personne n'écoute.
Ah, quand même, louloute, nos trois enfants et le labrador. On a laissé le poste sur Europe 1 en partant.
Ah, allez. Oui, oh, tu vois, ça fonctionne déjà.
Jade, sois gentille, concentre-toi sur ton interview de la matinale.
Oui, tu as raison, mon nono. C'est qui?
Emmanuel Macron.
Ok, ok, ok. Allez. Salut Manu, comment ça va?
Pardon de vous le dire. Mais bonjour madame.
Jade, s'il te plaît, concentre-toi. Dis-lui que les Français, dis-lui ce que les Français ont envie de lui dire.
Oui, monsieur Macron, vous êtes beau.
Génial, génial. Là, on est dans le journalisme d'investigation.
Oui. Il paraît que vous avez été banquier.
En même temps, oui, c'est vrai.
Oui. Vous gagnez beaucoup d'argent alors?
Fut un temps.
Vous êtes à fond mon genre d'homme et non, mais... puis comme le mien vient de retrouver du travail, moi je cherche quelqu'un.
Arrête ça louloute, enfin passe à l'édito politique. Vas-y,
bon,
on y va.
On se rappelle Manu, je te match sur Tinder. Hein, okay,
oui. mais mon programme?
Non mais arrête, t'en as pas. Allez, l'édito politique. Chers auditeurs, en Syrie, c'est la guerre.
Ah ça c'est bien louloute, brillante analyse. Allez, on y va.
Et la guerre? J'aime pas ça.
Bien, super.
Allez, bonjour Nicolas Canteloup.
Oui, bonjour Jade. Je vous trouve très attirante.
Ah, et il imite qui, là?
Strauss-Kahn, je crois.
Ouais, bref, bah, franchement, Laurent Gérard, il fait ça mieux. Ouais.
Jade, c'est un nom asiatique? C'est coréen, comme moi?
Mais il imite qui, là?
Putain, c'est Jean-Vincent Placé, là.
Ah, je connais pas.
Ok, c'est bon, j'ai pigé. On va faire revenir El Kabach, en fait.
Voilà. Fraternellement, bien voilà. Sûr.
Mais un salut confraternel, bien sûr. Et vous êtes quand même sur France Inter. Il est 17h58. Kevin Razi nous a accompagnés pendant cette heure. Merci beaucoup, Kevin.
Merci à vous tous, c'était super.
Eh ben, merci beaucoup.
Et on vous encourage à aller voir Kevin Razi pour une représentation exceptionnelle de son spectacle Mise à jour à Bobino le 26 avril. Les vendredis 21 et samedi 22, c'est à Lille au Spotlight. Et vous êtes sur Canal+ dans Rendez-vous avec Kevin Razi tous les samedis à 20h35 sur Canal+ Décalé. Merci à toutes nos équipes, toutes nos équipes immenses. Anne-Sophie Ladonne à la réalisation, Pierre-Yves de Rolin à la technique aujourd'hui. Et puis il y a Irène Menahem, Nathalie Romero, Sarah Masson, Albin Duvert qui nous aide.
La direction nous a dit que suite aux audiences, l'équipe allait encore grandir. On nous a promis des renforts. Donc là, vraiment.
Je vous laisse la responsabilité de ce mot. Moi, je vous laisse le mot de la fin pour un monde meilleur.
Alors, toi, si tu arrivais au pouvoir, alors, tu serais du genre à tuer la moitié des gens pour construire un monde meilleur?
Mais je l'ai tué, je les baise.